Merci à vous toutes ici du Guillaume Rouard d'aujourd'hui votre attention. Je suis Suzanne Bonnou, comme le docteur Edemi l'a dit, comptable de profession et coach en gestion des finances personnelles, entrepreneur pour vous dire marque de lingerie. Certainement ici, peut-être beaucoup ici n'ont pas encore entendu parler de coach en gestion des finances personnelles, parce qu'il y a des gens qui ne savent même pas que ça existe. Alors aujourd'hui ici, je m'en vais vous entretenir sur l'autonomisation de la jeune fille et de la femme. L'autonomisation de la jeune fille et de la femme, on en parle beaucoup, les pouvoirs publics, les associations comme Femmes Autonomes et Familles, les entreprises dans le cadre de leur responsabilité civile, mènent des actions en continu pour promouvoir l'autonomisation de la femme. Mais j'ai envie de poser une question. Qu'est-ce que nous-mêmes, les femmes, nous faisons pour notre autonomie? Qu'est-ce que nous, les femmes, nous faisons pour l'autonomisation de la jeune fille? Parce que la jeune fille, aujourd'hui, est la femme de demain. Et je voudrais dire ici, quand je parle de la femme, je parle de la jeune fille d'aujourd'hui. Alors, c'est vrai, les femmes, les jeunes filles doivent avoir accès aux ressources. On a parlé d'équité, on a parlé d'égalité, on a parlé de droit aux mêmes ressources que les hommes et que les jeunes garçons. Alors, quand on a le droit à ces ressources-là, qu'est-ce qu'on en fait? Là est toute la question. Parce que vous convenez avec moi ici que si on donne à une jeune fille de l'argent qu'elle ne sait pas gérer, très rapidement, ça va devenir un souvenir. Si elle ne sait ni le gérer, ni le garder, encore moins le multiplier, très vite, ça deviendra un souvenir. Et l'autonomisation de la femme, de la jeune fille, il y a différents moyens d'y arriver. Et parmi ces moyens d'y arriver, il y a la bonne gestion des ressources dont on dispose. Ce n'est pas seulement dire « oui, je veux des ressources, oui, je dois avoir accès au financement pour l'entrepreneuriat, oui, je dois avoir accès au travail de mes camps. » Vous avez donc accès à ce travail-là. Le salaire que vous gagnez là, qu'est-ce que vous en faites? Parce qu'on a des femmes qui, 20 ans, 30 ans de carrière, elle n'a rien accompli. Elle n'a absolument rien accompli. Je mets de côté ici l'éducation des enfants, mais je parle sur le plan personnel, l'accomplissement personnel. Elle n'a pas pu bâtir de patrimoine pour ses enfants, justement. Et ici, ça parle de comment est-ce qu'elle gère ses ressources. Et les ressources ici, j'entends particulièrement les ressources financières. Parce que quand on a eu l'accès à ces ressources-là, il est donc question maintenant de savoir comment est-ce que je vais gérer ces ressources-là. Et la gestion saine et responsable des ressources financières, c'est l'un des moyens les plus puissants dont une femme dispose pour accéder à son autonomie. C'est l'un des moyens les plus puissants. Parce que cette autonomisation, cette femme-là qui est capable de bien gérer son argent, c'est une femme qui a la possibilité de se prendre en charge. C'est une femme qui a la possibilité de s'assurer, comme le docteur Moubissé l'a si bien dit. C'est une femme qui a la possibilité de s'assurer. Donc la bonne gestion de ses ressources ici intervient à plus d'un point. Parce qu'une femme qui sait gérer son argent, c'est une femme qui est capable de se mettre en sécurité. Parce qu'elle va se constituer un fonds de sécurité qui va permettre que face à des imprévus, à des aléas, elle puisse être capable de répondre sans dépendre d'un partenaire, d'un parent ou d'une tierce personne, même si bien sûr ça n'exclut pas de bénéficier d'une aide. Et à bien des égards, ça va lui permettre de préserver sa dignité. Parce que chacune de nous ici connaît au moins une histoire où une femme s'est retrouvée en situation tellement dégradante, dévalorisante, parce qu'elle était face à un problème qu'elle ne pouvait pas gérer. Elle a dû se soumettre au bon vouloir d'une personne qui avait la capacité financière de faire face. Et ça, c'est des situations qu'on ne veut plus voir chez la jeune fille d'aujourd'hui, chez la femme d'aujourd'hui. Au-delà du fait qu'elle peut se constituer de la sécurité, un fonds de sécurité, la bonne gestion de ses ressources financières aussi, ça va permettre à la femme de pouvoir accéder à l'entrepreneuriat. Parce que la femme qui gère bien ses ressources, Elle peut épargner. Et si elle peut épargner, elle peut accéder à l'entrepreneuriat sans forcément avoir recours à un apport extérieur. Je parle ici de ma propre expérience. J'ai lancé ma marque de lingerie sur fonds propres grâce à mes économies. Je n'ai pas eu besoin d'attendre que un tel ou un tel vienne me donner de l'argent et parfois sous condition. C'est parce que je suis gérer les ressources dont je disposais. Et les ressources ici, je voudrais vous rassurer d'une chose. Ce n'est pas avoir énormément d'argent. Parce que dans mon parcours avec diverses personnes, je me rends compte que beaucoup pensent que bien gérer ses ressources, c'est gagner un gros salaire. Non. Je connais des femmes qui font des miracles avec très peu de revenus. Parce que le plus important, ce n'est pas ce qu'on gagne, mais c'est ce qu'on fait du peu qu'on gagne. Ça, c'est très important de le retenir. Le plus important, ce n'est pas le montant d'argent qu'on gagne, mais c'est ce qu'on fait de l'argent qu'on gagne. Savoir donc comment est-ce qu'il faut gérer cet argent-là. Un autre point ici, au-delà d'avoir accès à l'entrepreneuriat, la bonne gestion des ressources va permettre à la femme d'avoir la possibilité de prendre soin de sa famille, de briser le cycle de la dépendance. Et le cycle de la dépendance, si ça me rappelle l'histoire d'une dame qui est très proche de moi. L'année dernière, j'ai reçu un appel d'elle. Elle était tout en larmes parce qu'on avait agressé son mari. Son mari est de ce type d'homme que toutes les femmes veulent avoir, l'homme qui assume, qui prend soin de sa famille. Que la femme gagne de l'argent ou pas, il ne s'en préoccupe pas. Seulement, il fait ce genre de travail où s'il n'est pas présent à son poste, il ne gagne pas. Il a un commerce en parallèle qui, s'il n'est pas présent, ça ne produit pas. Il se fait donc agresser. Et c'était assez sérieux. Elle a même pensé, elle a eu peur de perdre son mari. Donc quand elle m'appelle le téléphone tout en larmes, elle me dit, qu'est-ce que je vais faire si mon mari meurt maintenant? Comment est-ce que je vais vivre? Mes enfants vont manger quoi? On n'a même pas encore fini la scolarité de l'année en cours. Bon, généralement, quand on est dans des problèmes, ce que les autres peuvent faire, c'est compatir. Parce que disons-nous la vérité, personne ne portera vos problèmes.
Ah oui.
On ne peut que compatir. On va dire, ok, on va prier pour qu'ils se remettent assez rapidement. Mais ça s'arrête là. Vos problèmes, vous les assumez seuls. C'est ce que j'ai fait. Je lui ai dit, ok, on va t'accompagner du mieux qu'on peut. Et je me suis arrêtée là. Ce que j'ai aimé dans cette discussion, c'est qu'elle m'a dit, je me rappelle que ça fait des mois que tu ne fais que me dire, commence un commerce parce que tu ne peux pas rester à attendre seulement que l'on te donne. Je n'ai pas dit, j'ai rien répondu à ça. Pourquoi? Parce que je savais que si j'appuyais dessus, elle allait se sentir plus mal. Et une semaine plus tard, on m'appelle pour me dire, j'ai commencé un commerce. Vendre des tomates, des condiments, devant sa porte, elle a la chance que là où elle vit, c'est le passage du quartier. Donc, tout le monde qui entre et sort du quartier passe devant sa porte. Et elle a une école primaire à côté. Elle a commencé ce commerce-là. Et la semaine d'après, toute joyeuse, elle m'appelle et me dit, depuis que j'ai commencé mon commerce, j'arrive déjà à mettre dans ma caisse au moins 300 tous les jours. Et je ne réfléchis plus si mon mari n'a pas. Est-ce que mes enfants, est-ce que je vais pouvoir préparer le lit sauté pour que mes enfants. Parce que son mari a fait 2 semaines. Vous imaginez une femme qui dépend 100% de son mari, 2 semaines de non-productivité. C'est ce qu'elle a vécu. La première semaine a été terrible, la deuxième s'est améliorée parce qu'elle a commencé son commerce. Et la meilleure, c'est qu'elle m'a dit, en dehors d'épargner, mettre l'argent dans ma tirelire. À la fin du mois, je vais entrer dans une cotisation qui est sur partie avec les femmes actives de mon parti. Et elle m'a dit, je ne vais plus jamais rester sans faire quelque chose. Parce que j'ai compris aujourd'hui que cet homme peut partir. Et s'il part, qu'est-ce que je deviens? Qu'est-ce que mes enfants deviennent? Seulement, j'aimerais bien que ce ne soit pas dans des circonstances pareilles qu'une femme prenne conscience de l'importance pour elle d'être financièrement. Parce que ça aurait pu être pire. Son mari aurait pu mourir dans cette affliction. Et ça aurait été beaucoup plus grave que ce à quoi elle a fait face. Donc, à chacune de nous ici, femmes, jeunes filles, il faut très bien comprendre l'importance, l'impact de l'autonomisation. Parce que cette autonomisation, ce n'est pas seulement à nous que ça profite, mais ça profite aussi à nos familles, à nos enfants, à nos époux. Parce que l'homme qui assume pleinement aujourd'hui, pour une raison ou une autre, est dans l'incapacité totale d'assumer. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il fait? Il faut donc pouvoir prendre la relève. On dit on est un couple, l'homme est le pourvoyeur, la femme est l'aide. Le jour où il est défaillant, il doit pouvoir compter. Le docteur Mokossi a dit, la femme a du pouvoir. Et ce pouvoir-là, ça passe aussi par ses finances. Oui, ça passe aussi par ses finances. Ça passe par ce qu'elle fait de ce dont elle dispose en termes d'argent. Et si il vous prend peut-être l'envie de poser la question, comment est-ce que bien gérer ces ressources-là va me permettre de devenir autrement? Parce que c'est une question à laquelle j'ai fait face plusieurs fois dans les échanges. Parce que je change beaucoup avec les gens chaque fois que j'en ai l'occasion, pas seulement dans une conférence. Eh bien, bien gérer ses ressources, bien gérer son argent. Je vais appeler le chat-chat, on parle d'argent ici. Bien gérer son argent là, malheureusement ça ne s'apprend pas à l'école. Je compte du primaire jusqu'au supérieur, il n'y a aucune unité d'enseignement où on parle de gestion de l'argent. Absolument aucune. Je suis comptable, j'ai fait des études de finance. Je ne me rappelle pas qu'on m'a dit un jour, quand tu as 100 francs, tu dois gérer ça comme ça. Ça n'existe pas. Et donc c'est à nous de chercher cette connaissance-là. C'est à nous de chercher cette connaissance. Et cette connaissance, il y a diverses manières de l'avoir. La connaissance est disponible sur Internet. Pour peu qu'on veuille être un peu curieuse, qu'on se donne un peu de la peine. Il y a les livres. Même comme nos petites sœurs, elles n'aiment plus lire, malheureusement. La connaissance, elle est disponible dans les livres. Je vais vous partager par exemple un livre, La chèvre de ma mère, que d'ailleurs le Maître Morel et sa mère dit toujours. Ça, c'est un livre que toute femme africaine doit lire. Et je l'affirme. Parce que c'est un livre qui bouleverse complètement la façon de penser. C'est un livre qui change complètement la vie d'une personne qui décide tout simplement, même dans un court laps de temps, de suivre les principes et de les appliquer. Les principes qui sont donnés dans ce livre-là. Et donc, ça passe par l'éducation financière. L'éducation financière, là, qui va vous permettre de savoir quelle est la différence entre un actif et un passif. Si je pose la question ici, c'est quoi un actif, c'est quoi un passif? Est-ce qu'il y a une personne qui peut me répondre? C'est quoi l'actif, c'est quoi le passif?
En fait, l'actif est fait du patrimoine qu'on a. Le passif, c'est l'ensemble des dettes juridiquement parlant. Voilà. De manière simple.
Je vais dire juridiquement parlant. Moi, je vais dire terre à terre, de telle sorte que même l'enfant de 5 ans, peut-être notre petit bébé, qui est le petit bébé là, peut-être à 2 ans ou 3 ans, puisse comprendre. L'actif, c'est ce qui vous fait gagner de l'argent. Le passif, c'est ce qui vous fait dépasser de l'argent. Simplement, c'est ça. L'actif vous fait gagner de l'argent. Ça fait entrer l'argent dans votre poche. Le passif fait sortir de l'argent de votre poche. Nos téléphones portables sont des passifs. Même si à un moment, ça peut être l'outil de travail, mais c'est un passif. Parce que quand on l'achète d'abord, il se déprécie. Et en plus, il nous fait dépenser de l'argent. Parce que pour communiquer, il faut payer. Mais on a la possibilité d'en faire un outil de travail. Bon, et je vais dire à toutes les jeunes filles qui sont ici, si ton téléphone ne te fait pas gagner d'argent, j'ai plus. Si ton téléphone ne te fait pas gagner de l'argent, j'ai plus. Le téléphone, c'est pas seulement pour faire des snaps et mettre sur les statuts. Les snaps géolocalisés, on voit que tu es peut-être au pays. Les snaps devant les téléphones, pourquoi on voit la pomme? Oui, tu utilises iPhone. Ton téléphone doit te faire gagner de l'argent. Donc, l'éducation financière va justement te permettre de faire la différence entre ces deux choses-là. Également, savoir bien gérer ton argent va te permettre d'apprendre à établir un budget. Le budget ici, c'est la base. Parce que ton budget va te permettre de savoir combien tu gagnes, combien tu dépenses et comment tu dépenses ton argent. Vous allez m'excuser, je suis partie du vous au-dessus. Parce que permettez-moi de continuer ici, parce que ça me permet un peu de briser la glace avec mes interlocuteurs. Donc, le budget, c'est ça. Combien je gagne, combien je dépense et comment je dépense. C'est à partir de ça que je vais pouvoir savoir où est-ce que je dois agir pour faire des économies et me constituer une part. C'est à ça que mon budget va me servir. Et après ça, il y a l'épargne, mesdames. La femme qui a l'épargne est au rêve. Si tu as une épargne, tu peux rêver. Si tu as une épargne, tu peux rêver. Parce que tu sais que tu as la capacité de faire tellement de choses. Tu peux saisir une opportunité avec l'épargne. Tu peux être là et dire que bon, il y a un 500 mètres carrés là, le propriétaire brade parce qu'il a un problème. Tu as de l'épargne, tu as quelque chose. Tu peux avoir une opportunité de formation qui change radicalement ta vie. Tu saisis cette opportunité parce que tu as une épargne. Tu peux avoir ton enfant qui tombe subitement malade, il faut beaucoup d'argent. Tu assumes parce que tu as une épargne. Oui. Et l'épargne, c'est la priorité pour toute femme qui veut être financièrement autonome. Je dis toujours, quand on a de l'argent, on épargne d'abord, on dépense après. Oui, c'est ça. On épargne d'abord, on dépense après. Si j'ai 10 000, dans le 10 000, quoi qu'il arrive, j'enlève une part et je dépose dans mon compte d'épargne. Le reste, je vois ce que je fais. Parce que l'épargne n'est pas la résultante de la fin de tes problèmes. C'est l'erreur que beaucoup commettent. J'ai encore beaucoup de problèmes, je ne peux pas me permettre d'épargner. Mais qui a dit ça? Et beaucoup de problèmes là pour beaucoup, hein, c'est juste les petites envies qu'on a envie de satisfaire. Ah, je veux changer mon téléphone alors qu'il fonctionne encore très bien. Je veux le dernier sac de mon assiette à poster là. Alors que tu n'en as absolument pas besoin. C'est ça les problèmes de beaucoup. C'est ça les problèmes de beaucoup. C'est le constat qui est fait dans les échanges que j'ai souvent avec les personnes. L'épargne est prioritaire. Et d'ailleurs, dans le planeur de la vie épanouie, nous sommes en mars, le mois de la responsabilité financière de la femme. Et dans la communauté, c'est une obligation pour chaque femme, ce mois d'épargner de la femme. Et celle qui n'a pas encore un compte d'épargne à la banque a l'obligation d'ouvrir un compte d'épargne. Parce que ça, c'est très important. Et même s'il faut aller un peu plus loin dans l'épargne, combien ici savent que dans l'épargne, on parle des protocoles de compte dans l'épargne. Les protocoles de compte. Parce que on n'épargne pas pour épargner. On épargne dans un but. J'ai parlé tantôt des fonds de sécurité. Oui, ça c'est un compte qui entre dans le protocole de compte. Il y a des comptes pour les investissements. Il y a des comptes même pour les aides. Nous sommes dans une communauté africaine où l'aide est importante pour certaines personnes. Eh bien, ils font compte pour ça. Il y a un compte pour les études des enfants. Donc, quand on enlève une part de son revenu, il est question de répartir ça dans les différents comptes en fonction des échéances qu'on s'est données et en fonction de plusieurs autres paramètres. Ensuite, je vais parler ici là de prendre soin de sa santé financière. Oui, parce que savoir gérer ses finances, apprendre à gérer ses finances permet de prendre soin de sa santé financière. La santé financière, si j'entends parler de gérer la dette, parce qu'il y a une différence entre la bonne et la mauvaise dette. C'est ce que beaucoup de personnes ne savent pas, femmes comme hommes. Et je vais vous dire simplement ici, la bonne dette, c'est celle-là qui vous permet d'augmenter votre patrimoine, vous permet d'augmenter votre valeur et vous permet de générer du cash flow. Pour qu'on puisse comprendre facilement, je vais vous prendre des exemples. Vous prenez un crédit à la banque pour construire votre maison. Voilà une bonne dette pour augmenter votre patrimoine parce que vous allez acquérir une maison. Vous prenez un crédit parce que vous voulez payer une formation. La formation là-bas vous permet d'acquérir des connaissances, des compétences que vous pouvez monétiser. Voilà une dette qui vous a apporté de la valeur. Vous prenez un crédit parce que vous voulez augmenter le fonds de roulement de votre commerce. Ça va vous générer du cash flow. Voilà une dette qui va vous apporter des entrées d'argent. Voilà des exemples de bonnes dettes. À l'inverse des mauvaises dettes. Bon, là, les femmes sont spécialistes. Des mauvaises dettes. Les femmes sont spécialistes là. J'aime prendre l'exemple des sacs à main parce que toutes les femmes, on aime les sacs. Moi-même, j'en fais partie. Je ne fais pas l'exception. J'aime beaucoup les sacs. La SOA mis sur son statut d'un sac que je veux. J'ai pas d'argent, hein. Mais je dis quand même, je veux. Mais je n'ai pas l'argent. C'est commerçante, elle veut vendre. Et puisque je suis sa cliente, elle va dire, Asso, je ne peux pas te refuser le sac. Quand tu viens payer à la fin du mois, d'autres contentes que je vais prendre le sac. Voilà comment, très facilement, j'ai contracté une mauvaise dette. Parce que ne pas avoir ce sac n'aurait rien changé à ma vie. Et avoir pris ce sac à la dette n'a apporté aucune valeur à ma vie. Absolument. Donc, c'est important de faire la différence entre la bonne et la mauvaise dette. Et une fois qu'on est déjà tombé sur le coup d'une dette, c'est relativement facile d'en sortir. Là, il suffit de mettre sur pied un plan de remboursement adéquat. Et ça, c'est généralement c'est vu en détail dans les mécanismes de gestion de la dette. Ça, c'est très important. Et enfin, ici, là, je vais dire à ne pas prendre soin de sa santé financière. Apprendre à gérer ses finances là. Mais ça donne de la confiance en soi. Ah oui. La femme qui gère bien son argent, elle a une épargne, elle a son fonds de sécurité. Elle peut se permettre de rêver parce qu'elle peut réaliser des projets. C'est une femme qui a confiance en elle. Elle a confiance en elle parce qu'elle sait qu'elle a le pouvoir de dire non quand ça ne l'arrange pas. Elle a le pouvoir de choisir un chemin, elle a le pouvoir de choisir. Et elle sait qu'elle a la capacité de prendre les décisions qui vont positivement impacter sa vie et la vie de sa famille, la vie de ses enfants, et même la vie de son conjoint. Parce que ça va améliorer la vie de ces personnes.